Bonjour, bienvenue sur Bac FM. Nous sommes les 4e 5 du collège Paul Langevin. Nous avons participé à une classe presse en collaboration avec Clémy Dijon et Bac FM. Nous allons vous présenter un portrait des collégiens à travers leur centre d'intérêt.
Bonjour, nous sommes Margot, Océane et Maëlys. Nous allons traiter deux thèmes essentiels, l'amour et l'amitié. Nous allons poser tout d'abord quelques questions concernant l'amour.
Qu'est-ce que l'amour pour les ados ?
C'est un sentiment réciproque et éternel.
Après enquête, nous nous rendons compte que la plupart des ados ont déjà éprouvé des sentiments. Mais qu'est-ce que pour un ado éprouver des sentiments amoureux ? Voici les réponses qui ont été faites.
Ça s'explique pas. Ça s'impose à nous. On a des papillons dans le ventre. On a des attentions pour l'autre. On prend soin de l'élu de notre cœur. On éprouve de la tendresse et de l'admiration.
On voit alors qu'à 14-15 ans, on peut ressentir des sentiments profonds et que c'est très sérieux.
Une question se pose quand même. Comment peut-on savoir quand on aime une personne ?
Certains nous ont avoué avoir peur que l'autre ne l'aime pas ou être jaloux.
On note qu'on a déjà dit « je t'aime » à la plupart des ados et que beaucoup l'ont déjà dit à quelqu'un aussi. Et tout le monde est content d'éprouver de tels sentiments.
Maintenant, nous avons posé quelques questions concernant l'amitié. Qu'est-ce que l'amitié pour les ados ?
Apparemment, les ados font bien la différence entre l'amitié et l'amour. L'amitié est tout aussi indispensable dans la vie que l'amour. Un ami, c'est quelqu'un en qui on a confiance et à qui on dit tout.
Est-ce que pour vous, les expressions « pote, copain et ami » c'est pareil ?
Apparemment, les ados font bien la différence entre l'amitié et l'amour. L'amitié est tout aussi indispensable dans la vie que l'amour. Un ami, c'est quelqu'un en qui on a confiance et à qui on dit tout. À la question suivante, avez-vous une ou un meilleur ami et que représente-t-il ou tel pour vous ? Voici les réponses recueillies.
Les trois quarts des jeunes interrogés avouent avoir un ou une meilleure amie. C'est une personne en qui on a le plus confiance et à qui on peut tout dire. Mais beaucoup ont été déçus, comme si la fidélité en amitié n'était pas évidente.
Est-ce qu'il arrive que l'amitié se transforme en amour et vice-versa ?
On constate que la plupart des ados sont déjà passés de l'amour à l'amitié, et aussi de l'amitié à l'amour. Donc la frontière entre ces deux sentiments semble très mince.
L'amour. Nous venons d'aborder un thème majeur, mais le thème suivant est aussi très important dans la vie des collégiens. Il leur permet de communiquer et de créer des liens.
Bonjour, je suis Camille et je vais vous parler avec Lorraine et Dorian de la relation fusionnelle entre les adolescents et leur portable.
Bonjour.
Combien de temps passes-tu sur ton téléphone ?
Les ados passent la plupart de leur temps 2 à 3 heures sur leur téléphone.
Moi, je passe environ 6 heures sur mon téléphone.
Moi, je passe 3 heures sur mon téléphone.
Et moi, j'y suis toute la journée, à part quand on a cours.
À partir de quelle heure prends-tu ton téléphone le matin ?
La plupart des ados prennent leur téléphone dès qu'ils se lèvent, d'autres ne le prennent pas.
Moi perso, je le prends dès que je me lève.
Moi, ça dépend des fois.
Moi, je le prends pas.
Dépasses-tu l'heure du coucher à cause de ton téléphone ?
Il y a 4 ados sur 7 qui dépassent l'heure du coucher à cause de leur téléphone.
Moi, je le dépasse pas parce que j'ai des heures fixes.
Moi, je dépasse de quelques minutes.
Moi, ça dépend des fois.
Est-ce que tu as ton téléphone à côté de toi quand tu fais tes devoirs ?
Une personne sur 7 ne prennent pas leur téléphone pour faire leurs devoirs.
Moi, ça dépend des fois. Des fois, je le prends, des fois, je le prends pas.
Moi, je le prends tout le temps.
Moi, il est tout à côté de moi.
Dors-tu avec ton téléphone à côté de toi ?
Un peu plus de la moitié des ados dorment avec leur téléphone.
Moi, je dors avec mon téléphone à côté de moi.
Moi, je dors jamais à côté de mon téléphone, il y a trop de ondes.
Est-ce que ton téléphone te déconcentre ?
Leur téléphone ne les déconcentre pas.
Mon téléphone me déconcentre.
Mon téléphone ne me déconcentre pas.
Et moi, il me déconcentre.
Est-ce que ta moyenne baisse à cause de ton téléphone ?
La moyenne des ados ne baisse pas.
Moi, ma moyenne, elle a un peu baissé au deuxième trimestre.
Moi, elle a baissé aussi.
Moi, ma moyenne n'a pas beaucoup baissé.
Est-ce que ton téléphone est indispensable pour toi ?
3 personnes sur 5 pensent que leur téléphone est indispensable pour eux.
Pour moi, mon téléphone, il est indispensable.
Moi, mon téléphone, il est complètement indispensable.
Moi, pas trop.
Que représente ton téléphone pour toi ?
Le téléphone est plus utilisé pour les réseaux sociaux et pour leur plaisir.
Pour les réseaux sociaux.
Pour les réseaux sociaux et le plaisir.
Moi, pareil.
Sur quelle application passes-tu le plus de ton temps ?
Certains l'utilisent pour passer le temps, d'autres pour les devoirs ou certains sur les réseaux sociaux.
Moi, c'est ça.
Pour passer le temps.
Est-ce que tu as mal à la tête quand tu es trop sur ton téléphone ?
Le téléphone ne leur donne pas tous mal à la tête.
Moi, le téléphone me donne un peu mal à la tête.
Moi aussi.
Pour quelles raisons vas-tu sur ton téléphone ?
Ils vont sur leur téléphone pour leur plaisir.
Pour le plaisir.
Pour le plaisir.
Pareil.
Quand tu vas quelque part ou quand tu vas voir quelqu'un, est-ce que tu es sur ton téléphone ?
La plupart des ados ne le font pas.
Moi, je prends souvent mon téléphone quand je vais voir quelqu'un.
Moi, ça m'arrive.
Moi aussi, ça m'arrive.
Si votre téléphone se casse, quelle sera votre réaction et celle de vos parents?
Déjà, nos parents, ils vont nous tuer ou on doit en racheter un autre ou prendre l'ancien.
Le téléphone. Le téléphone portable semble une mode incontournable, mais il y a d'autres domaines où la mode s'applique comme les sacs de classe.
Bonjour, nous sommes Lisea et Marion et nous allons vous parler des tendances en matière de sacs d'école parmi les adolescents et des problèmes causés par ces mêmes sacs.
Nous avons constaté que la majorité des élèves se plaignent du poids de leur sac car il y a beaucoup trop de matériel à emmener. En effet, un cartable de collégien peut peser jusqu'à 9 kg pour des élèves qui ne font guère plus de 30 kg. Certains ont même des problèmes de dos.
La plupart des élèves avaient des sacs à roulettes à l'école primaire, mais ont arrêté d'en avoir au collège car ils trouvaient ça ridicule. Ces sacs traînent une image bébé. Chez les commerçants, la plupart des modèles sont destinés aux petits, avec beaucoup de roses pour les filles et de super-héros pour les garçons. Au collège, globalement, les élèves préfèrent les sacs à dos. Ils sont considérés comme plus pratiques que les sacs en bandoulière parce qu'ils ont plusieurs poches, ils contiennent plus de matériel et répartissent mieux le poids sur le dos. On notera que la plupart ont des bretelles rembourrées pour le confort.
J'ai l'impression, Lisea, que la marque la plus répandue est Ispac.
Oui, car c'est la mode. Et en plus, ils sont garantis 30 ans. Il y a aussi de nombreux motifs originaux et énormément de couleurs disponibles en magasin et sur Internet.
Une partie des collégiens n'accorde pas d'importance à l'allure de leur sac, mais beaucoup le choisissent en fonction de leur style vestimentaire et privilégient le noir ou le gris parce que ça va avec tout. Mais en définitive, pour tous, ce qu'il compte le plus, c'est la résistance du sac. Finalement, joli ou pas, les sacs restent trop lourds.
Sac cartable. Les sacs sont lourds, c'est un fait. Alors que dire quand il y a sport? Car le sport est bien sûr une activité super importante pour beaucoup d'ados.
Bonjour, nous sommes Benoît, Nathan et Jean-Baptiste et nous allons vous parler de la pratique du sport par les élèves du collège Paul Langevin. Précisément, le pourcentage de garçons qui font du sport est de 57,2% et le pourcentage de garçons qui ne font pas de sport est de 42,8%. Alors qu'il y a un pourcentage de 66,6% de filles qui font du sport contre 33,4% de filles qui n'en font pas. On se rend donc compte que les filles pratiquent plus volontiers le sport que les garçons au collège.
D'autre part, les garçons ne font pas les mêmes sports que les filles, souvent par goût. Par exemple, les sports de contact ou les jeux de ballon, ou même la pétanque, mais aussi à cause du regard des autres. Comme par exemple la danse que des garçons n'osent pas pratiquer par peur du ridicule.
Les filles, quant à elles, préfèrent la danse, la gym, l'équitation, le basket et les activités sportives qui concernent le cirque.
Notons que la plupart des collégiens, filles et garçons, font du sport en club. Comme quoi, le sport fait vraiment partie de notre vie quotidienne et de nos loisirs.
Une autre chose qu'on a remarqué, c'est que les filles participent moins aux compétitions, soit parce que dans le sport qu'elles pratiquent, il n'y en a pas, ou parce qu'elles ne désirent pas se confronter aux autres. Trop de stress.
Pour ce qui est de la durée accordée au sport, on constate en moyenne la pratique de 2 séances d'environ 2h30 par semaine, donc 5 heures environ par semaine. Tout cela a bien sûr un coût, et le prix des licences est très divers, selon les sports. Comptons de 20€ jusqu'à 500€.
On se rend compte que le sport occupe une grande place dans la vie des ados. C'est bien car c'est indispensable à la santé physique et mentale. Cela permet de nous dépenser, de nous détendre. Cela évite aussi d'être scotché devant les écrans, de trop s'ennuyer et d'être blasé. Dans le pire des cas, faire les imbéciles.
Apparemment, il y aurait des sports pour les filles et des sports pour les garçons. Difficile de faire de la danse pour un garçon et de la boxe pour une fille. Pourrait-on alors parler de discrimination ?
Je m'appelle Asia et je vais en effet vous parler de la discrimination. La discrimination, c'est l'action de distinguer les choses les unes des autres avec précision. C'est aussi quand, dans une même situation, une personne est moins bien traitée qu'une autre selon un critère interdit par la loi.
Bonjour, moi je suis Christian et je rajoute que les victimes de la discrimination peuvent être poursuivies par des rumeurs graves qui finissent parfois en bagarre ou en coups, des insultes stigmatisantes.
Alors moi je m'appelle Manson et je rajoute qu'il existe plusieurs sortes de discrimination, les discriminations liées au sexe, à l'orientation sexuelle et les discriminations liées à l'origine géographique.
Il existe de nombreuses insultes liées à l'orientation sexuelle, comme sale gay, TPD, tapette, travelo, qui peuvent être extrêmement humiliantes pour certains, en particulier en cas de fragilité. Asia, qui en est-il de la discrimination sexuelle dans notre collège ?
Certains élèves du collège nous ont dit se sentir mis à part, exclus, rejetés par les autres en raison de leur façon de se comporter différemment, avec des manières considérées trop féminines pour des garçons ou trop masculines pour des filles. Ils sont poursuivis par des rumeurs avant d'assumer leur sexualité. N'oublions pas que les jeunes homosexuels, souvent agressés par des groupes de garçons, présenteraient 4 à 7 fois plus de risques de faire une tentative de suicide que les jeunes hétérosexuels. Les filles sont aussi concernées par un type de discrimination particulier. Nombreuses sont celles qui nous ont raconté avoir subi dans la rue des remarques sur leur physique ou leur tenue vestimentaire, des invitations par des inconnus, avoir été sifflées ou encore avoir été touchées de manière inappropriée dans les couloirs du collège. Même si elles ont rarement réagi, elles nous ont confié leur malaise. Elles se sentent comme des objets, dépossédées d'elles-mêmes, alors que les garçons ne s'en rendent pas forcément compte.
Mais nous non plus les garçons, on n'apprécie pas ça.
Heureusement, la loi essaie de nous protéger contre les discriminations sexuelles, car l'article 225-1 du code pénal rend répréhensible de 3 ans de prison et de 43 000 euros d'amende depuis le 1er juillet 1972. Tout harceleur, après plusieurs mois de débats, une loi contre les violences sexistes et sexuelles a été adoptée le mercredi 1er août. Celui-ci prévoit notamment la verbalisation du harcèlement de rue.
Notre établissement, pour sa part, essaie de gommer les différences culturelles, ne serait-ce qu'au niveau des repas, autre thème central de la vie collégienne.
Bonjour, nous sommes Julie et Estelle. Nous allons vous parler du CELB de notre collège. Nous avons commencé par interviewer la vie scolaire à propos de son organisation. Une surveillante a bien voulu répondre à nos questions.
Bonjour, comment organisez-vous le passage au CELB ?
Les passages sont faits à l'année par rapport à l'emploi du temps. D'abord ceux qui prennent à 13h, puis les activités et enfin ceux qui prennent à 14h. Nous faisons tourner l'ordre de passage du CELF pour que ce ne soit jamais les mêmes niveaux.
Comment gérez-vous les élèves qui passent trop tôt pour aller manger ?
Quand nous voyons les élèves, nous les faisons repasser et nous faisons en sorte de les punir pour qu'ils comprennent.
Pourquoi des élèves manquent l'appel au CELF ?
C'est la faute des élèves, les surveillants appellent plusieurs fois et font passer le message aux surveillants de cours qui rappellent.
Est-il envisageable de mettre des micros ?
J'ai bien peur que non.
Ah bon ? Pourquoi ?
Ce n'est pas possible, car il faudrait avoir un surveillant de plus pour faire l'appel au micro depuis la vie scolaire, et en plus, on ne l'entend pas bien de l'extérieur.
Avez-vous d'autres solutions ?
Oui, il faudrait un mégaphone.
Ce serait l'idéal pour vous ?
Oui, c'est la solution, ça nous fatiguerait moins.
Quels sont les autres problèmes qu'on peut rencontrer au CELF ?
Il y a les problèmes d'élèves qui jettent la nourriture, d'autres qui ne mangent pas, il y a ceux qui doublent.
Comment réagissent les surveillants quand il y a un problème au CELF ?
Si l'élève jette la nourriture, il doit nettoyer. S'il ne mange pas, nous essayons de trouver la cause et d'essayer de le faire manger. Et s'il double, nous le refaisons passer.
Le problème de passage au CELF est causé d'un trop grand nombre de demi-pensionnaires. Par rapport aux appels manqués, il faudrait un amplificateur de voix portable. Grâce à cela, les surveillants n'auraient plus besoin de crier.
Ensuite, nous avons interrogé les élèves sur la disposition du CELF. La plupart des élèves sont satisfaits. Nous leur avons donc posé des questions. Selon toi, quel aliment est bon pour la santé ?
Selon moi, les bons aliments sont les légumes, les fruits et la viande.
Aimez-vous les plats servis au CELF ?
Oui et non, car des fois c'est trop gras ou pas assez salé. Mais sinon, en global, c'est bon et équilibré.
Quels sont tes plats préférés au CELF ?
Je dirais le hachis parmentier.
Est-ce que l'horaire de passage au CELF te convient-il ?
Oui, quand on reprend à 14h et non quand on reprend à 13h.
Qu'est-ce qui te dérange le plus au CELF ?
Beaucoup trop de bruit, l'organisation laisse à désirer.
Globalement, les élèves sont plutôt satisfaits mais voudraient plus de liberté dans le choix du menu. De plus, les cuisiniers ont pensé aux élèves ayant une religion qui ne permet pas de manger du porc, en mettant d'autres aliments à la place, comme du poisson ou d'autres viandes.
Puis nous avons interrogé l'intendance. Ne pouvant pas venir, nous parlerons à sa place. Pourrions-nous avoir du bio à la cantine ?
Non, on ne pourrait pas avoir du bio au CELF, car le collège ne bénéficie pas d'une grande chambre froide. Il n'y a pas assez de producteurs bio dans la région et ça coûterait beaucoup trop cher. Mais on pourrait toujours avoir une ou deux journées bio.
Est-ce qu'on pourrait avoir des sauces ?
Non, on ne pourrait pas avoir de sauce car il est interdit depuis environ 5-6 ans. Le sel et les sauces sont servis en fonction des plats et ne sont pas librement accessibles.
Pourrions-nous avoir plus de produits laitiers à chaque repas ?
Il y a déjà des produits laitiers au CELF comme du fromage, mais on ne pourrait pas mettre plus de yaourt ou autre chose.
Pourquoi ?
On ne pourrait pas mettre plus de produits laitiers pour un repas car il y a une norme qui a été appliquée en 2011.
En global, si les élèves voulaient du bio à la cantine, ça ne serait pas possible pour plusieurs raisons, dont la difficulté de trouver de bons producteurs, la taille insuffisante de notre chambre froide, et ça coûterait beaucoup trop cher.
Et si pour rendre encore plus agréable le temps des repas, on diffusait de la musique? Mais comment choisir, car les goûts sont différents, n'est-ce pas Louane?
Bonjour, nous sommes Célia et Louane et nous allons vous parler des goûts musicaux des collégiens. Nous leur avons demandé s'ils écoutaient de la musique.
Il se trouve que toutes les personnes interrogées ont affirmé en écouter.
Et quel genre de musique aime-t-elle Célia?
Sur 8 personnes interrogées, 7 préfèrent le rap américain et français. Et tous les ados apprécient la variété.
Ok, mais la variété de quelle époque?
La plupart écoutent la musique à la mode en ce moment.
Mais comment ont-ils connu ce genre de musique?
Ils écoutent de la musique sur des chaînes radio ou des plateformes de musique en streaming, dont Spotify et Deezer. TikTok, une appli de playback, permet de découvrir plein de nouveaux artistes et de morceaux.
Quels sont les chanteurs ou chanteuses qu'ils écoutent le plus souvent?
Il n'y a que quelques personnes qui écoutent des chanteurs ou chanteuses des années 60 et 80, comme Claude François, Johnny Hallyday. La plupart des jeunes de notre génération écoutent souvent RK, Aya Nakamura, Kobalade, donc surtout des rappeurs français.
D'accord, mais qu'est-ce que la musique leur apporte?
Ils nous ont répondu qu'écouter de la musique leur apporte du bonheur, ça leur donne de la joie de vivre. Personnellement, je dois dire que je choisis ma musique en fonction de mon humeur. Par exemple, quand je suis triste, j'écoute plutôt du Ritza, qui est assez sombre.
Beaucoup de personnes sont comme toi, je pense, non?
En effet, la grande majorité nous a affirmé que la musique a un rôle sur leurs émotions, et ils peuvent l'utiliser pour modifier leur humeur. Cela peut les apaiser, leur rappeler des bons souvenirs, leur donner la pêche, envie de bouger, etc.
Est-ce qu'ils pratiquent le chant ou un instrument de musique?
Très peu de personnes pratiquent le chant ou des instruments de musique, mais peut-être qu'ils auront envie de s'y mettre plus tard. Après tout, l'adolescence n'est qu'un passage de la vie.
On vient de faire un court bilan de nos préoccupations d'ado, mais cela ne nous empêche pas de penser à l'avenir. Nous commençons à voler de nos propres ailes et rêvons d'indépendance. Et qui dit indépendance, dit voiture.
Bonjour, je m'appelle François. Moi et mon équipe Léo Yerwan, nous allons vous présenter la conduite accompagnée. Nous sommes collégiens et nous aurons bientôt le droit de passer le permis de conduire. Nous allons nous intéresser à la conduite accompagnée, parce qu'il nous semble que c'est le meilleur moyen d'apprendre à conduire.
Qu'appelle-t-on la conduite accompagnée?
C'est le fait de conduire avec ses parents, par exemple, pour s'entraîner avant de passer le permis. La conduite accompagnée permet à l'apprenti conducteur d'acquérir plus d'expérience et de confiance en soi.
Qu'est-ce qui le prouve?
La réussite à l'examen depuis la conduite accompagnée. La conduite est plus élevée chez les jeunes ayant suivi un apprentissage anticipé de la conduite. Il est de 75% dans ce cas au lieu de 57%.
Y a-t-il d'autres avantages?
Oui, la conduite accompagnée permet de réduire la période probatoire suite à l'obtention du permis à 18 ans. De plus, elle peut donner droit à des tarifs avantageux auprès des assurances voitures pour les jeunes conducteurs.
À partir de quel âge peut-on pratiquer la conduite accompagnée?
Elle est accessible à partir de 15 ans. Si on a réussi à passer l'épreuve du code de la route, qu'on a le droit de passer au même âge.
Que fait-on lorsqu'on a le code?
Suite à l'obtention du code de la route, le candidat peut débuter l'apprentissage anticipé de la conduite accompagnée avec un enseignant pour au moins 20 heures avant d'être autorisé à conduire la voiture familiale.
Peut-on passer le permis avant les autres lorsqu'on pratique la conduite accompagnée?
Absolument. Si on a conduit les 3000 km Bilibob prescrits, on a le droit de se présenter à l'examen dès 17 ans et demi. Mais on ne pourra de toute façon pas conduire avant ses 18 ans.
Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons vous avoir intéressé avec notre portrait des adolescents de Fourchambault. Au revoir à tous, à bientôt sur BAC FM.